C'est Christine Cossette au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de Croire d'hier à demain, réalisée dans le cadre du 50e anniversaire de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Quand j'étais petite, nous lisions à la maison Le Nouvelliste. Je suis de la Mauricie, vous l'aurez compris, d'un tout petit village, le lac à la Tortue. En passant, je salue tous les gens de la Mauricie qui écoutent Radio Ville-Marie. Je reviens à mon Nouvelliste. Chaque fois que je voyais dans les avis de décès de ce journal l'annonce du départ d'une religieuse, je m'en désolais à tout coup. Et je disais à maman, pas encore une autre. Je dois vous dire que la présence des religieuses, dans mon village, c'était des filles de Jésus, a été pour ma part très positive dans ma vie de petite fille. Et quoi qu'on ait pu dire d'elle, j'ai toujours trouvé chez ces femmes joie de vivre, réconfort, attention toute particulière, bref, tout ce qu'un enfant peut attendre d'un professeur qui fait son quotidien. En tout cas, quand je regarde ce que ces religieuses qui travaillaient d'une noirceur à l'autre ont été et ont fait au Québec, pour les enfants, pour les malades, pour les abandonnés de la vie, je reconnais la générosité de ces femmes. Tout ça pour vous dire que quand Rick Van Leer m'a proposé une émission sur les communautés religieuses aujourd'hui, vous comprendrez que cela m'a plu. Né aux Pays-Bas en 1972, Rick Van Leer est entré chez les Dominicains en 1996 et a été ordonné prêtre en 2002. Il a été aumônier au centre étudiant Benoît Lacroix sur le campus de l'Université de Montréal durant 2 ans. Il enseigne à l'Institut pastoral comme professeur adjoint. C'est dans le prolongement d'un cours sur les communautés religieuses qu'a donné Rick Van Leer ici à l'Institut pastoral des Dominicains que nous le recevons à cette émission « Croire d'hier à demain ». C'est donc avec joie que je reçois Rick Van Leer. Rick Van Leer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série d'émissions « Croire d'hier à demain ». Vous enseignez, Rick, à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Vous êtes titulaire de la chaire TIAR sur la vie religieuse du Collège universitaire dominicain. Vous siégez également à la commission théologique de la Conférence religieuse canadienne qui regroupe l'ensemble des communautés religieuses du Canada. Cette année, vous consacrez en plus votre temps à la rédaction d'une thèse de doctorat en théologie de la vie consacrée et de la vie religieuse. Vous connaissez donc le paysage de la vie religieuse au Canada. D'après vous, comment se portent les communautés religieuses aujourd'hui?
La grande question devant laquelle il faut répondre, je pense, avec beaucoup de nuances. Si je réponds « tout va bien », on me dira « mais voilà un grand naïf ». Si je réponds « mais tout va mal », ce qui correspond à une partie de la réalité, on me dira « mais c'est un pessimiste absolu ». J'ai pour ma part envie de répondre que je vois la réalité actuelle de la vie religieuse avec une espérance lucide. Et j'insiste ici sur les deux mots, lucidité et espérance tout à la fois. Quand on parle de lucidité, c'est le rapport aux faits, le paysage réel, la vie religieuse, la vie des communautés religieuses, des congrégations, des ordres, des monastères, des couvents dans le Québec aujourd'hui. Je pense que c'est toujours bon de se resituer un tout petit peu dans l'histoire courte et notamment de s'en tenir à certains chiffres, des statistiques.
Oui, parce que j'imagine que le nombre des religieux et des religieuses diminue d'année en année.
C'est ce à quoi on pense assez spontanément, c'est ce qu'on voit dans les journaux, dans les médias, ce qui n'est pas faux quand on regarde 1975, il y avait au Canada 55 000 religieux et religieuses. Aujourd'hui, nous en retrouvons 19 000, avec une majorité de femmes, or les religieuses ont toujours été majoritaires, les religieux une minorité, dont 14 000 religieux religieuses au Québec et plus de 4 000 dans le seul diocèse de Montréal. C'est le diocèse au niveau canadien qui comprend le plus grand nombre de religieux et de religieuses. Donc vous voyez tout de même la courbe démographique qui est nettement descendante. Si on regarde maintenant les moyennes d'âge oscillent autour du 75 ans, ce à quoi j'ajoute qu'on voit statistiquement entre 800 et 1000 religieux et religieuses au Québec, sinon au Canada, qui meurent annuellement. Donc, vous faites le décompte assez rapidement. D'ici une vingtaine d'années, la vie religieuse aurait cessé d'exister au Canada. Mais je le mets au conditionnel, aurait.
Mm-hmm. Est-ce que selon vous, Rick Van Leer, la situation est aussi alarmante qu'elle en a l'air?
Ah, alors j'ai parlé de réalisme, une espérance lucide, mais une espérance qui est là tout à fait réelle et absolument pas utopique. Elle correspond aussi à une part de la réalité. Et quant à moi, qui travaille à la fois comme sociologue, comme théologien, et qui analyse, surtout depuis une quinzaine d'années, l'évolution de la vie religieuse, il y a d'abord des convictions fortes en moi, étant moi-même religieux, dominicain, depuis une quinzaine d'années. Moi, j'ai 38 ans.
Oui.
Je suis entré à l'âge de 23 ans chez les dominicains, ici au Canada. Il y a donc d'abord un parti pris qui est personnel. Je crois à la vie religieuse suffisamment pour y investir tout mon être, et ce depuis une quinzaine d'années.
Oui.
Partant de là, il y a aussi une option que j'appellerais méthodologique. Il y a une façon d'aborder le réel qui procède de la méthode que je choisis ou de la voie que je choisis d'emprunter. Un jour, Gandhi disait, et je l'applique à la réalité de la vie religieuse ou de la vie de l'Église, quand un grand arbre tombe, cela fait beaucoup de bruit et cela nous empêche d'entendre la forêt qui germe. Or, qu'est-ce que le grand arbre qui tombe? C'est la grande institution Église catholique, notamment ici au Québec, mais au Canada ou encore dans l'ensemble de l'Occident, quelque chose de cette figure historique et institutionnelle du catholicisme, effectivement, est comme un grand arbre qui tombe. Cependant, je vois une forêt qui germe à la base avec des initiatives de toutes sortes au plan de l'Église, mais également au plan de la vie religieuse. Quelque chose est en germe, il y a une vie qui grouille, je dirais, à la base. Alors ça, c'est vraiment une option de méthodologie pour moi. Mmh. Je choisis, pour utiliser une autre image, de regarder non pas le verre d'eau vide, mais de regarder la partie pleine du verre, l'eau qui est là.
Oui.
Il me semble que c'est premier élément, une première optique qui me donne de l'espérance face à l'actualité et l'avenir de la vie religieuse. Une deuxième optique qui pour moi est une optique importante, un théologien, Gilles Routhier, qui enseigne à l'Université Laval, disait un jour « Qui n'a pas le regard long ne peut pas espérer ». Et plus je travaille les questions de l'histoire de l'Église et l'histoire des ordres religieux, plus j'en suis convaincu qui n'a pas le regard long ne peut pas espérer. Il y a quelques jours, j'entendais quelqu'un à la télévision parler de la crise actuelle de l'Église catholique comme étant une crise sans précédent. Je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un sourire en entendant le journaliste en disant « mais il faut bien avoir une mémoire courte, de souffrir de présentéisme. L'Église catholique, de même que la vie religieuse, n'en est pas à sa première crise. Les crises font partie de la vie humaine, tout court, de la vie d'une institution également. L'histoire de la vie religieuse, vous savez, c'est fait de cycles de vie et de mort.
Oui, même que Timothée Ratcliffe disait que le christianisme est né dans une crise.
Elle est née dans une crise.
Exactement.
C'est de fait, enfin, ce serait à approfondir le concept de crise appliqué au christianisme. Mais je pense que les temps de crise sont des temps de passage, des temps de transformation, des temps de Pâques, pour utiliser un mot proprement judéo-chrétien. Mais c'est un temps de passage qui est important. Et quand on pense encore à cette longue histoire, il y a un classique dans la littérature, surtout historique, sur la vie religieuse, écrite en 1974 par un historien jésuite du nom de Raymond Hostie. Donc Raymond Hostie, ce jésuite, a écrit « Vie et mort des ordres religieux ». Et c'est très intéressant parce qu'il reprend la grande histoire de la vie religieuse depuis, disons, ses origines dans les déserts d'Égypte au tournant du 3e et du 4e siècle. C'est là où on voit les premiers moines et les premières moniales du désert apparaître, suite à quoi on voit les communautés monastiques avec une grande figure au 6e siècle, par exemple, comme Saint Benoît.
Oui.
Or, il y a eu plusieurs fondations du type monastique, surtout, durant tout le premier millénaire.
Ah.
En fait, Raymond Hostie va en dénombrer à peu près 37. Or, du premier millénaire jusqu'à aujourd'hui, pour les communautés nées, disons, avant l'an 1000, combien de communautés restent? Une seule, l'ordre de Saint-Benoît, les bénédictins.
C'est
datant
étonnant.
Du VIe siècle.
Oui.
Et puis ensuite, il repasse les différentes fondations, en passant par les jésuites, les dominicains, les ordres mendiants du Moyen-Âge, etc., etc. On arrive jusqu'à aujourd'hui. Grosso modo, va dire Raymond Hostie, l'historien jésuite, il dit « Le trois quarts des communautés religieuses vont disparaître au cours de l'histoire, avec un cycle de vie et de mort où on voit la plupart des communautés avec 300 ans, ils ont accompli leur cycle de vie et il y a une extinction qui n'est pas inéluctable. Mmh. Certaines communautés, mais ce sont des cas d'exception, traversent les siècles. On pense aux bénédictins, aux cisterciens, l'ordre du Carmel, l'ordre dominicain, les jésuites. Aucune communauté n'a une promesse d'éternité, on dira. Cependant, le fait est, et on le voit dans l'histoire, que certaines communautés réussissent à passer à travers 8, 9, 1000 ans parfois.
Le tableau que vous nous avez brossé, je dirais au Canada ici, au Québec, ce n'est pas du tout alarmant. Au contraire, vous y voyez là plein de germes d'espérance. Mais si on analyse donc la situation au plan mondial cette fois-là, qu'en est-il aujourd'hui?
Voilà, je pense que ça, c'est le troisième point de vue qui est important à adopter pour avoir cette espérance lucide que je mets de l'avant. On peut avoir tendance à penser que le catholicisme québécois dit tout du catholicisme et que la situation actuelle des communautés religieuses au Québec ou au Canada, ou même en Occident plus largement, dit tout de l'évolution de la vie religieuse, mais partout dans le monde.
C'est bien prétentieux que de croire.
Je pense, et ça ne correspond pas aux données réelles de l'Église catholique. Et catholicos en grec, d'où vient le mot catholique, signifie justement universel. Par conséquent, pour prendre un peu de relief dans l'analyse de l'évolution de la vie religieuse aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi non seulement avoir l'histoire, comme je viens de le dire, mais avoir aussi un regard presque planétaire. Hein, on est à l'âge, justement, de la planète, donc de porter un regard lucide sur le développement du catholicisme dans son ensemble et plus particulièrement de la vie religieuse. Et de ce point de vue, certains chiffres sont tout de même révélateurs. On peut avoir l'impression, surtout pour nous ici dans notre contexte, ah, tout va mal, l'Église catholique est en train de s'effondrer, c'est une des pires crises de l'histoire. Par rapport à l'histoire, je l'ai déjà dit, ce n'est pas pire qu'en d'autres temps. Mais par ailleurs, le catholicisme, au plan mondial, est actuellement en croissance. Quand on regarde les statistiques de 2007 à 2008, tout de même les grosses statistiques, donc ça prend du temps à accumuler, de 2007 à 2008, on note une augmentation de 18 millions de catholiques à travers le monde, pour un chiffre total de 1 milliard 166 millions de catholiques dans le monde. Donc d'abord une augmentation globale, ensuite une augmentation du nombre de séminaristes et de religieux à travers le monde aussi, en chiffre total, vous voyez. Par contre, une diminution, toujours en totalité du catholicisme, du nombre de religieuses actuellement, qui s'explique en grande partie par l'amenuisement des religieuses sur le continent nord-américain et européen.
Et cette augmentation dont vous parlez, est-ce que vous êtes capable de situer dans quelle partie du monde plus exactement ou non?
Il faut savoir que 40% des catholiques du monde se retrouvent actuellement dans l'hémisphère sud, notamment ici pour l'Amérique latine, 8% pour l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, ensuite évidemment une bonne portion en Europe. Mais voilà, la figure même du catholicisme est en train de changer d'une figure du catholicisme très centrée sur l'Europe dans un premier temps, auquel on additionne l'Amérique du Nord. Voilà que démographiquement, je ne dis pas en termes d'influence, mais au moins des termes démographiques, c'est l'hémisphère sud qui va tendre, à mon sens, à l'emporter au cours des prochaines années, avec l'Amérique latine, avec l'Afrique et l'Asie, qui n'ont pas encore le poids démographique réel actuellement, mais ce sont des continents où l'on voit une croissance du catholicisme, contrairement à l'Amérique du Nord ou encore à l'Europe. Donc vous voyez, ce sont tout de même des données importantes pour situer le portrait de la vie religieuse actuelle et du catholicisme.
Oui. Est-ce que vous diriez que nos communautés canadiennes, québécoises, on pense aux sœurs grises, aux sœurs la congrégation de Notre-Dame, jésuites, franciscains, dominicains, bon, est-ce qu'ils ont débordé les frontières?
J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure,
oui.
si on aborde les questions plus vraiment d'histoire.
Oui.
Mais je peux déjà dire, durant le cours du 20e siècle et le début, le 20e siècle surtout, les communautés québécoises se rangent parmi les nations les plus importantes en termes de missionnaires œuvrant à l'étranger. On pense par exemple les missionnaires de l'Immaculée Conception.
Oui.
Hein? Ce sont des femmes d'avant-garde qui, déjà à la moitié du 19e siècle, du 20e siècle, partaient en Chine, partaient au Japon, apprenaient ces langues. Certaines religieuses ont été emprisonnées. Elles ont vécu des aventures incroyables.
Ah oui. Hein?
Et ce sont des Québécoises qui sont donc allées à l'étranger.
Donc, on peut dire que nos communautés ont essaimé dans le monde entier, finalement.
Ça, c'est un fait incontestable.
Oui.
On pourrait dire aujourd'hui, on nous rend la monnaie de notre pièce, je pense que c'est ça l'expression,
oui.
puisque ces communautés internationales font venir aujourd'hui aussi des religieux, des religieuses de l'étranger, non seulement pour boucher du trou, ce serait trop facile de le dire, même si la situation d'un bon nombre de communautés religieuses, avec les moyens d'âge élevés, des besoins locaux, peuvent expliquer peut-être la venue d'un certain nombre de religieux et religieuses venant de l'étranger, mais plus par la positive, et c'est important d'insister sur cette dimension, ces religieux, religieuses se font aujourd'hui missionnaires au Québec, au Canada, comme l'ont fait jadis ceux qui aujourd'hui sont âgés, qui sont partis dans leur pays. C'est un peu le retour d'ascenseur, je dirais, bon, avec les défis que cela pose. Mais je pense que c'est positif au niveau d'une nouvelle configuration et du catholicisme, de la société québécoise aussi, qui est pluriethnique.
Oui.
Et voilà, les communautés religieuses mais non seulement tout à fait à la page, je pense que les communautés religieuses, en termes d'interculturalité, sont même à l'avant-garde des sociétés actuelles. Ça aussi, on pourrait peut-être développer ça un peu plus tard, mais ça, je le dis tout de suite. Ce qui a donc comme conséquence que certaines communautés d'origine québécoise vont possiblement disparaître au Québec, mais ne vont pas disparaître tout court. Ces communautés vont vivre, et non seulement survivre, mais vont vivre, et connaissent déjà aujourd'hui une croissance dans d'autres pays.
Oui, oui. Vous avez choisi, Rick Van Leer, de nous faire entendre une pièce musicale du répertoire grégorien. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi exactement et pourquoi?
Alors, j'ai choisi dans un premier temps de nous plonger un peu dans la vieille tradition de la vie religieuse, dont la matrice, dont la première émergence est plutôt monastique. Et on sait que dans la vie monastique, la prière et la prière vécue en communauté, et notamment la prière chantée à base de psaumes, occupe une partie centrale, prioritaire de la vie religieuse, et surtout ici monastique, avec un chant qui s'est beaucoup développé dans les monastères occidentaux, qu'on appelle le chant grégorien, qui a surtout émergé à partir du 8e siècle au sein de l'Église catholique romaine. Et j'ai retenu une pièce qui est chantée par les chanoines réguliers de Prémontré, un ordre religieux qui a été fondé au 12e siècle par Saint Norbert. Ils ont d'ailleurs, les Prémontrés, un petit monastère à Saint-Constant dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, une communauté que j'aime bien, très sympathique. Donc, la pièce sera chantée par des chanoines réguliers de Prémontré, une pièce dont les paroles sont « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là? Regardez le ciel, Jésus reviendra. » Les dernières phrases de l'Évangile, une invitation à mon sens à regarder avec un horizon infini.
Nous reprenons cette entrevue avec le frère Rick Van Leer. Vous nous avez dit dans la première partie de cette émission qu'il faut situer la période présente dans la longue histoire. Qui n'a pas le regard long, disiez-vous, ne peut pas espérer. Alors essayons, si vous le voulez bien, de voir la situation d'un point de vue historique ici au Québec, notamment pour analyser la situation.
Alors, si on regarde, on a 4 siècles à couvrir en quelques minutes. Alors, soyons brefs, soyons concis et schématiques également. Quand on regarde les 4 siècles, finalement, de catholicisme au Québec, dans lequel s'inscrit la réalité que nous nommons la vie religieuse, on peut parler de l'époque de la Nouvelle-France. Ensuite, le régime anglais, troisièmement, l'époque glorieuse de l'Église, et quatrièmement, autour du Concile Vatican II. Ce sont un peu les quatre grands pôles sur lesquels je dirais juste quelques éléments. Donc, le premier temps, la Nouvelle-France, juste pour nous repérer, ce sont pas des repères politiques, mais événementiels plutôt, on peut dire grosso modo 1608, fondation de Québec, et période que jusqu'en 1759, la guerre de la conquête. Donc pour l'évolution de la vie religieuse, nous avons là une tranche importante. Deux choses à dire sur cette période. Premièrement, n'oublions pas que ce sont des petits groupes qui viennent en Nouvelle-France.
Oui.
Les Récollets, quelques-uns, ils sont en 1615. 1625, 6 jésuites. Ils ne sont pas 25, ils ne sont que 6. Mmh. Certains seront martyrisés, comme on le sait.
Oui.
Donc ça se passe pas très bien, finalement. 3 Ursulines arrivent en 1639 et 3 Augustines arrivent. Ce sont des petits groupes.
Oui,
c'est
oui.
une première chose dont il faut se rappeler oui. dans la fondation et de l'Église, mais aussi de la vie religieuse au Canada. Mm-hmm. Deuxièmement, ce sont des jeunes. Ils sont dans la vingtaine, ils sont dans la trentaine. Ils sont inexpérimentés, ce ne sont pas des missionnaires de carrière, là,
non,
avec
non.
une longue expérience en Europe. Ils n'ont jamais traversé l'océan. Mm-hmm. Ils ont plein de bonne volonté, ils ont une foi avec de la fougue. Mm-hmm. Hein, on a une Marie de l'Incarnation avec une expérience mystique incroyable. Voilà les origines de la vie religieuse ici au Canada. Pour prendre un autre exemple, la fondation de la Congrégation de Notre-Dame,
oui.
ici même, Montréal, Ville-Marie à l'époque, par Marguerite Bourgeois, on est en 1658, on connaît les grands collèges, tous les grands édifices. N'oublions pas que Marguerite Bourgeois a fondé la première école de Ville-Marie, et conséquemment aussi un peu sa congrégation, dans une étable.
Oui, simplement.
Bref, tout cela pour dire que les racines de la vie religieuse ici en Nouvelle-France sont très humbles. C'était très risqué à l'époque et ces mêmes risques peuvent être pris aujourd'hui. On peut recommencer dans une petite étable comme Marguerite Bourgeois.
Ben voilà.
L'a fait, vous voyez. Donc il me semble pour la première étape, c'est ce que j'avais à dire.
Oui. Et la deuxième maintenant.
La deuxième. Mm-hmm. Alors je le situe autour du changement de régime britannique, 1760, la guerre de la conquête, et ce sont pas des dates au niveau politique, mais pour bien comprendre l'évolution et du catholicisme et de la vie religieuse, donc guerre de la conquête 1760, jusqu'en 1840, Monseigneur Bourget à la tête du diocèse de Montréal.
Oui.
Première chose, avec le changement de régime, l'Église catholique romaine est tolérée, en grande partie par compromis politique, par l'occupant anglais, dont en fait la visée réelle est l'assimilation linguistique et religieuse, linguistique, bien sûr, la langue anglaise, religieuse, l'Église anglicane, qui est l'Église officielle d'Angleterre. Voilà les visées, et l'Église catholique, elle est tolérée. Que se passe-t-il au niveau du recrutement et du clergé et de la vie religieuse? Les séminaires sont interdits de recrutement, les communautés masculines sont interdites de recrutement également, et elles n'ont plus le droit de faire venir de leurs membres d'Europe, comme cela se faisait beaucoup encore au XVIIe, XVIIIe, XVIIIe siècle, n'ont plus le droit de faire venir des membres de France. Les jésuites, en 1800, le dernier jésuite disparaît, il meurt.
Oui.
Les jésuites ne sont plus présents.
Est-ce qu'on le voit plus du côté des hommes que du côté des femmes?
Alors là, la situation, elle est différente, effectivement.
Oui,
parce que si on voit vraiment une situation de crise, autrement plus délicate qu'aujourd'hui, les jésuites vont disparaître, les récollets vont disparaître également. Pendant 70 ans, pas de nouvelles communautés religieuses vont venir ici, ici au Canada. Du côté des femmes, effectivement, la situation est différente. Politiquement, elles sont moins menaçantes que les hommes, et deuxièmement, elles sont utiles également aux nouvelles équipes anglais par le réseau tentaculaire des hôpitaux,
des écoles,
des écoles, des œuvres de bienfaisance également. Donc ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que sous la période britannique, les soubresauts du changement de régime, la vie religieuse vit une période de crise importante, à l'instar de l'Église catholique.
Oui. Vous me disiez un peu avant qu'à partir de 1840, donc cette troisième étape, je dirais, que les communautés religieuses ont occupé à peu près toutes les sphères sociales. Alors, comment vous expliquez ce phénomène, ce nouveau phénomène?
Ah, il y a bien des éléments qui expliquent ce facteur-là. J'en retiens deux. D'une part, il y a quand même un contexte sociopolitique. Hein, 1837, 1838, la révolte des patriotes, c'est toute la question de l'identité, on dirait un peu de nationale, pour prendre nos termes contemporains. Il y a donc une crise politique qui se vit avec la défaite des patriotes de 1837-1838. Cette rébellion manquée ouvre la porte à un nouvel investissement de type utopique, un nouveau projet porteur, rassembleur, société canadienne-française et Église catholique romaine vont unir leur destinée.
Oui.
Ça, c'est un premier facteur. Il y a une condition favorable à un projet porteur. Ce projet porteur, de qui va-t-il venir? De plusieurs personnes, mais une figure importante est Mgr Ignace Bourget, deuxième évêque du nouveau diocèse de Montréal. Il est en poste en 1840. Mgr Bourget est un homme d'envergure, un homme d'aspiration, et ce à quoi il aspire, c'est à fonder, à créer une chrétienté, une société chrétienne ici au Québec.
Donc il a joué un rôle très important dans la vie religieuse.
Dans le milieu des historiens actuellement, plusieurs publications sont faites sur Ignace Bourget et on revisite le personnage aussi. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit des opinions historiques qu'on puisse avoir sur cet homme, le fait est que pour comprendre l'évolution de l'Église catholique avec ce qu'elle sera pendant près d'une centaine d'années à partir de 1840 jusque vers 1960, Bourget demeure un incontournable, et via Bourget, le diocèse de Montréal.
Oui.
Or, au plan de la vie religieuse, Bourget va au moins aider à fonder quatre communautés religieuses, les Sœurs de Sainte-Anne, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie, les Sœurs de Miséricorde et les Sœurs de la Providence.
Et donc, quatre communautés qui ont marqué le Québec,
qui ont marqué le Québec de
manière incroyable.
Effectivement. Mm-hmm. Mais ce n'était pas encore assez pour Bourget.
Ah non.
Bourget va se rendre en France, où les communautés religieuses vivent encore une période difficile, les soubresauts de la Révolution française de 1789, et un peu plus tard, vers la fin 19e, 20e siècle, avec les lois anti-congrégationnistes françaises, donc une période difficile pour les congrégations. Mgr Bourget va recruter des religieux et des religieuses d'origine française, leur promettant du travail, des œuvres, leur promettant du recrutement, des vocations. Et il ne s'est pas trompé. Ce sont des milliers et des milliers de religieux et de religieuses françaises qui vont immigrer au Canada au tournant des années 1900-1930, un peu après. Alors voilà une donnée extrêmement importante qui va permettre à l'Église catholique d'occuper à peu près toutes les sphères du social. Période de crise avec une réponse qui a été possible de la part de l'institution catholique.
Mm-hmm. Mais si je vous suis bien, la normalité de la vie religieuse, c'est pas dans ce passé d'avant 1960.
Vous savez, on est encore très marqué par le catholicisme et la vie religieuse d'avant le Concile Vatican II, Concile Vatican II qui a pris fin en 1965.
Oui.
Ce qui veut dire que dans nos références, on se dit, il y a moins de vocations. Oui, mais moins. Par rapport à quoi?
Ben voilà.
Par rapport à la Nouvelle-France, avec les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure.
Voilà.
En fait, il y a beaucoup plus de vocations aujourd'hui qu'au XVIIe siècle, où les débuts étaient extrêmement humbles et ardus.
C'est ça.
Hein? Mm-hmm. Mais on est toujours omnibulé par les chiffres grandiose peut-être du passé, mais dans le regard long dont je parlais tout à l'heure, au regard de l'histoire, les religieux et les religieuses ont presque toujours constitué une minorité, et au sein de la société, et au sein de l'Église catholique. Par conséquent, moi je prétends qu'actuellement, on est beaucoup plus dans les normes que dans ce que le Québec a connu, tout au plus une centaine d'années sur les quatre siècles du catholicisme au Québec, soit de 1840 jusque vers 1960 environ, la période normal n'est pas là. Au contraire, je pense que c'est une centaine d'années plutôt anormale.
Oui, on en arrive donc à la quatrième période. On a connu autour du Concile Vatican II dans les années 60 un autre bouleversement, une autre crise.
Voilà. Crise, bouleversement, en tout cas le mot crise a été très largement employé, je dirais ces 50 dernières années, pour qualifier la vie religieuse. Deux choses sont à noter ici, bien sûr l'événement du Concile Vatican II, 1962 à 1965. Il serait faux, je le dis très clairement, il serait faux d'attribuer la crise du catholicisme au Concile Vatican II.
Ah bon?
Je crois plutôt que l'événement du Concile Vatican II, et surtout l'accueil de son message et l'enseignement du Concile Vatican II, s'inscrit dans une période socio-politico-historique, les années 60, où toute la société est en grand bouleversement.
Oui.
C'est mai 68, alors, côté français, c'est la Révolution tranquille au Québec. Donc il faut être très attentif au contexte d'accueil du Concile Vatican II.
Donc il est tout à fait normal de voir un bouleversement, un changement dans les communautés religieuses à ce moment-là.
Oui, et si on veut parler de crise, mais crise permet de faire le départage des choses, de se dépouiller d'une carapace devenue extrêmement lourde et rigide pour réadopter, reprendre, je dirais d'abord, la fraîcheur de l'Évangile.
Oui, c'est très beau.
Mais c'est quand même marquant.
Oui, oui.
Après le Concile Vatican II, les religieux et les religieuses ont commencé à lire la Bible. Dans bien des communautés, particulièrement de femmes, les religieuses n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Alors ça, on redécouvre la fraîcheur de la parole de Dieu, de l'Évangile, on dépouille. Donc c'est à la fois une adaptation au monde en émergence, mais également, et c'est le deuxième mouvement, ou la grande intuition du Concile Vatican II, de revenir aux sources, d'abord de l'Évangile, et également des figures fondatrices des communautés.
Oui.
Qu'est-ce qui nous a fait naître?
Oui. Alors, si je vous suis bien, ce n'est pas le nombre de membres dans une communauté qui est garant de sa vitalité.
Ça, j'en suis persuadé.
Oui.
Il y a dans l'histoire de l'Église, l'histoire longue et l'histoire courte, de magnifiques exemples de communautés fort peu nombreuses, mais avec beaucoup d'influence. Je vous donne un exemple.
Oui.
L'an dernier, je donnais un cours justement qui s'intitulait « La vitalité paradoxale de la vie religieuse au Québec aujourd'hui », un cours à l'Institut de pastorale et dominicain. À ma grande surprise, je me suis retrouvé avec 150 étudiants.
Ah, waouh!
Alors, c'était le cours de l'année. J'étais d'abord très surpris du nombre d'étudiants inscrits. Déjà, ça disait quelque chose de la volonté de vivre des religieux et des religieuses. Deux, parce que j'ai abordé avec les étudiants la question du nombre, et précisément la question que vous me posez, j'ai demandé aux 150 étudiants, qui parmi vous connaît la communauté de Thésée? 98% de mes étudiants lèvent la main.
Évidemment.
Deuxième question. Combien sont les frères de Thésée?
Et?
Certains disaient 700, 1000, 2000. Tout au plus 100, 150 frères dans des petites communautés dans le monde et surtout concentrés dans ce petit village à Thésée.
Oui.
Or, pour prendre un exemple très récent, vous savez que la communauté de Thésée, avec les chants de Thésée que nous connaissons, ont des rassemblements en Europe annuels autour du jour de l'an. Cette année, le grand rassemblement inter-européen de Thésée se tenait en fait dans ma ville d'origine, la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, et ils ont réussi à rassembler 30 000 jeunes autour de quelques frères, et bon, une très bonne organisation, et ils ont une très bonne logistique, mais seulement peut-être une trentaine de frères étaient présents.
Alors, quelle vitalité!
Et 30 000 jeunes étaient là,
voilà.
Dans un pays quand même très sécularisé comme le Pays-Bas et d'autres pays limitrophes. Vous voyez, donc pour moi, ça c'est un très bel exemple d'un petit groupe qui peut avoir un très grand rayonnement. Donc, non, le grand nombre n'est pas garant de vitalité, et je pense qu'on peut avoir une grande qualité dans des petits groupes.
D'ailleurs, vous avez choisi de nous faire entendre une pièce de ce groupe de jeunes qui se rassemblent à Thésée.
Voilà, donc je pense que probablement nos auditeurs connaissent au moins les chants de Thésée. Je rappelle que la communauté de Thésée a été fondée en 1940 par un protestant, Roger Schultz, dans un petit village en France. une communauté monastique, donc d'abord consacrée à la prière, un peu plus tard à l'accueil de jeunes, une communauté qui a aussi pour particularité de rassembler des frères de différentes confessions chrétiennes, des orthodoxes, différentes églises réformées, des catholiques romains, et de pouvoir vivre déjà une certaine unité au niveau de l'église, donc l'œcuménisme. La parole de Dieu, elle est chantée en polyphonie, avec une grande simplicité, ce sont des refrains qui sont répétés, et c'est très bon pour la prière. J'ai retenu un chant de bénédiction, de louange. Bénissez le Seigneur.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie du frère Rick Van Leer, dominicain. Nous avons analysé avec vous, Rick, la situation des communautés religieuses d'un point de vue historique et nous avons déplié cette réalité des communautés religieuses aux dimensions internationales. Alors, parlons maintenant de la vitalité des communautés religieuses aujourd'hui. Y a-t-il des signes d'une certaine vitalité dans les communautés d'après vous?
Une vitalité paradoxale, j'ai déjà utilisé cette expression-là. Allons-y justement avec le paradoxe. On a déjà vu les chiffres, ils sont alarmants. Tout ne va pas mal parce qu'il y a une forêt qui germe. J'ai utilisé cette image-là.
Très belle, d'ailleurs.
Il y a des choses qui vont bien.
Oui.
Il y a d'abord des vocations nouvelles au sein des communautés de vieilles traditions.
Oui.
C'est-à-dire qui ont 100, 150, ou même 800 ans, comme dans le cas de ma communauté, l'ordre dominicain.
Oui, et d'ailleurs, vous en êtes la preuve.
J'en suis la preuve également.
Oui.
Alors, il y a de nouvelles vocations. Ce sont des personnes d'âge très varié. Ils peuvent être dans la jeune vingtaine. Ils peuvent être dans la soixantaine. Ils ont connu la vie. Certains ont été mariés, d'autres ont des enfants, parfois même il y a des jeunes grand-mères ou grands-pères. Ce sont des cas qui se présentent. J'observe actuellement de jeunes catholiques, c'est-à-dire dans la vingtaine, qui n'ont pas reçu d'éducation religieuse catholique, qui vivent une conversion religieuse, qui entrent dans l'Église catholique et qui cheminent actuellement au sein d'un certain nombre de communautés. Ça, c'est un fait nouveau, mais c'est certainement un signe d'espérance. Donc, on entre à tous âges, on entre avec toutes sortes d'expériences. Il y a des défis pour ces nouveaux membres dans les communautés religieuses, celle d'entrer le plus souvent dans des communautés dont les strates générationnelles sont inversées, c'est-à-dire une pyramide inversée, beaucoup de personnes âgées pour peu de jeunes. Ça peut être une difficulté, ça peut représenter un défi également, celui d'une réalité intergénérationnelle. Je crois que la vie religieuse sur cela a quelque chose à dire à la société contemporaine, une société où nous compartimentons les générations, les vieux d'un côté, les jeunes de l'autre. Qu'est-ce que fait une communauté religieuse? Lorsque je suis entré au noviciat des Dominicains, c'était ici à Montréal. Le plus âgé de la communauté était Benoît Lacroix, que les gens connaissent très bien. Et moi, j'avais 23 ans, j'étais le plus jeune de la communauté.
Merveilleux.
Et entre cela, des frères dans la cinquantaine, soixantaine, 70, jusque à Benoît Lacroix. Voyez, donc c'est une réalité intergénérationnelle et c'est possible. Et je pense qu'une deuxième chose que les religieux et religieuses peuvent apprendre, c'est l'art de bien vieillir. Il y a des religieux et des religieuses qui vieillissent bien parce que leur vie continue d'avoir un sens, même s'ils ne sont plus actifs parfois au niveau du travail et encore. Alors voilà, un premier signe de vitalité, de nouvelles entrées avec tout de même un certain nombre de défis. Deuxièmement, signe de vitalité, je l'ai déjà abordé, l'internationalisation des communautés, c'est lié à l'histoire, c'est lié à ce que nous vivons actuellement, particulièrement au Québec, des religieux, des religieuses de l'étranger qui viennent, des religieuses du Québec qui ont une longue expérience à l'étranger. Je dirais de manière microscopique, les communautés religieuses vivent de manière peut-être plus intense que dans la société, ce qui se vit dans une société de plus en plus internationale, interculturelle, et de ce point de vue, les communautés représentent un peu comme des laboratoires d'interculturalité.
Ah oui.
Et là, il y a un message fort, je pense, à envoyer à la société. C'est possible de vivre avec une dizaine de nationalités différentes au quotidien, ensemble.
Ouais. Surtout dans un contexte, dans le contexte de mondialisation dans lequel nous vivons. Hein?
Oui, c'est... les communautés religieuses sont à l'avant-garde du phénomène de mondialisation et elles l'ont depuis des centaines d'années,
oui.
Des centaines et des centaines d'années.
Oui, oui. Et à ces communautés, j'imagine, vont se joindre des laïcs.
Alors ça, c'est l'autre phénomène, surtout prégnant au Québec depuis une quarantaine, 30-40 ans. Bien, les congrégations ont développé des associés. Ce n'est pas nouveau au regard de l'histoire, puisque dans l'histoire, on a toujours eu autour des monastères,
oui.
Par exemple, des monastères bénédictins avaient leurs données, les ordres du Moyen-Âge avaient les tiers-ordres, et ils l'ont toujours, il existe un laïcat carmélitain, un laïcat franciscain, dominicain, etc. Donc, cela représente une nouvelle source de fécondité du charisme fondateur des communautés, et c'est un signe de vitalité actuelle.
Et à cela, vous devez ajouter, j'imagine, les communautés nouvelles.
Voilà, ça c'est mon domaine de travail,
oui.
Comme sociologue, comme théologien. Ma thèse de doctorat actuellement porte sur un certain type de nouvelles communautés. C'est à l'évidence un signe de cette vitalité paradoxale. Quelque chose meurt, mais dans le portrait, quelque chose naît également.
Mm-hmm.
En juin dernier, est sortie à Rome une étude à laquelle j'ai contribué pour la partie canadienne, qui donne pour une première fois au sein de l'Église catholique les statistiques du nombre de nouvelles communautés religieuses ayant été fondées depuis la fin du Concile Vatican II, 1965. 800 nouvelles communautés ont été répertoriées, ce qui veut dire qu'il y en a probablement plus encore.
Uh-huh.
Ce sont des communautés parfois plus ou moins importantes, mais tout de même, 800 nouvelles communautés ont été fondées.
Oh, c'est
donc
incroyable.
Lorsqu'on pense qu'actuellement c'est une période morte pour la vie religieuse, attention, ouvrons les yeux, c'est plutôt grouillant de vie,
oui.
Actuellement.
Ah oui.
Vous voyez, quand on regarde pour le Canada, je suis certain que ça va nous intéresser.
Oui.
J'ai pu dénombrer, et le travail reste encore à faire, je m'y mettrai avec une équipe de recherche interuniversitaire au cours de l'année prochaine. Une trentaine de nouvelles communautés ont émergé au Canada, et une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine en fait, qui existent toujours actuellement, ont émergé sur le territoire québécois. La moitié sont d'origine française, c'est-à-dire fondées en France et sont venues s'établir ici. Quelques noms, ça peut peut-être donner des références. La congrégation Saint-Jean, les fraternités monastiques de Jérusalem sur le plateau Mont-Royal, la communauté des Béatitudes, la communauté du Pain de Vie, la communauté du Chemin Neuf. Donc quelques exemples de ces communautés nouvelles françaises venus au Québec, puis des communautés d'origine québécoise qui elles-mêmes vont essaimer à l'étranger, quelques exemples, la famille Myriam Bethléem, la communauté de l'Alliance, la famille Marie Jeunesse, la communauté Jésus est Seigneur, les franciscains de l'Emmanuel, les petits frères de la Croix, les moines et les moniales du cœur de Jésus, et j'en suis essoufflé, etc. Vous voyez, alors ce n'est pas mort.
Et vous avez répertorié de toutes ces communautés, vous parlez de trois modèles.
Alors c'est ça, quand on parle de nouvelles communautés ou de communautés nouvelles, ils ne sont pas tous du même type. Un premier type, et ce sont des nouveaux instituts religieux qui prennent le modèle des communautés déjà reconnues au sein de l'Église, des communautés composées d'hommes ou de femmes, tous célibataires et professant les trois vœux. Pauvreté, chasteté et obéissance, et certains de leurs membres sont ordonnés au ministère, diacre ou encore prêtre. Donc c'est le modèle classique qu'on réitère, mais avec des fondations contemporaines.
Oui.
Donc premier modèle, nouveaux instituts religieux. Deuxième modèle est ce que j'appelle les communautés nouvelles mixtes. Ce sont des communautés qui comprennent des hommes et des femmes vivant ensemble au sein d'une même communauté.
Est-ce que l'Église officielle accepte ce genre de communauté?
Elle accueille, mm-hmm. elle accepte, oui. mais l'Église a de la difficulté actuellement à intégrer ce type de communauté mm-hmm. dans ses cadres légaux, ce qu'on appelle le code de droit canonique. Ah. Actuellement, il y a des problèmes pour les insérer dans ce qui existe. Mm-hmm. Mais la vie précède toujours la loi et par conséquent, il sera un jour possible, probablement, voilà. de changer le code comme cela s'est fait assez mm-hmm. régulièrement. Vous voyez, donc communauté nouvelle mixte, hommes et femmes, mm-hmm. tous célibataires, professant aussi les trois vœux classiques de la vie religieuse.
Oui. Et finalement, vous avez les communautés nouvelles plurivocationnelles.
Voilà. Alors ça, c'est peut-être un nouveau terme.
Oui, oui, oui.
Plurivocationnel,
oui, oui.
signifiant qu'il y a une diversité de vocations dans une même communauté. Ici, nous avons aussi des hommes et des femmes mm-hmm. vivant en communauté religieuse. Ils sont célibataire consacré par les trois vœux,
oui.
selon le modèle classique.
Oui.
Nous y retrouvons également des ministres ordonnés. Et là, cas particulier, nous y retrouvons aussi des couples mariés, le cas échéant, avec leurs enfants, donc des familles. Et ce ne sont pas des associés comme dans les congrégations, ce ne sont pas des tiers ordres non plus. Ils font intégralement partie de la communauté.
Avant de nous parler des limites de ces communautés-là, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui attire les hommes et les femmes modernes à entrer dans ces nouvelles communautés.
Il y a d'abord la quête de Dieu. Je pense que c'est important de le mentionner.
Évidemment.
Au point de départ, mm-hmm. c'est le fondement de la vie religieuse. Je dis quête de Dieu, mais je dirais aussi ce Dieu qui nous cherche
mm-hmm.
et qui continue d'appeler des personnes, selon des vocations diverses, au sein de la vie religieuse. Un des facteurs d'attrait des communautés nouvelles, tout comme anciennes, mais certainement des communautés nouvelles, ce sont des communautés qui prient de différentes façons, dans le registre plus du renouveau charismatique, dans le registre plus monastique, mais il y a une beauté dans la prière. Les communautés qui attirent sont des communautés qui prient et qui consacrent du temps à la prière, donc la quête de Dieu, un premier facteur d'attrait. Deuxième facteur d'attrait, la figure fondatrice. On se souvient, hein, au Moyen-Âge, avec François d'Assise,
oui.
qui continue d'attirer, eh bien, il fascinait au sens sociologique de charisme. Il avait un charisme, il attirait mm-hmm. des disciples à sa suite. La même chose se produit encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'unique facteur, ce serait dangereux, parce mm-hmm. qu'on serait dans une secte, mm-hmm. ce serait de type gourou.
Mm-hmm.
Ça peut être un écueil pour certaines nouvelles communautés, mais lorsqu'un fondateur est bien enraciné dans la tradition de l'Église, un équilibre humain également, il sait donner le meilleur de lui-même, son héritage, le charisme qui lui a été donné par l'Esprit-Saint et qui devient l'héritage de l'ensemble de la communauté.
Oui.
Donc la figure fondatrice, un des multiples facteurs d'attrait.
Oui.
Troisième facteur d'attrait, l'importance de la communauté. Hein. Une communauté où les liens sont tissés plus ou moins serrés, mais très souvent plus que moins,
mm-hmm.
où les relations ne sont pas des relations fonctionnelles, des relations d'affaires, mais des relations de convivialité, de fraternité, voire même d'amitié réelle. On passe du temps ensemble. Le sens de la fête est aussi très développé au sein de ces nouvelles communautés. Donc cela est un facteur d'attrait, surtout dans une société
oui.
où le catholicisme se désagrège d'une certaine manière. On a besoin de retrouver un esprit de corps, un esprit d'appartenance et une communauté plus forte.
Oui, et peut-être aussi dans une société où on ne prend pas toujours le temps de vivre, de s'arrêter, de fêter.
Oui, et la vie religieuse développe là un mm-hmm. registre de gratuité.
Oui, exactement.
J'aime bien dire, la vie religieuse, ça ne sert à rien.
Voilà.
C'est né dans l'Église, comme de la surabondance de la grâce, parce que des hommes et des femmes ont été touchés par le message de l'Évangile, mmh. de la rencontre par le Christ, et cela suscite un don d'enthousiasme pour le suivre dans une voie de radicalité particulière.
Mmh. J'imagine que vous y voyez des limites, par contre, à ces nouvelles communautés religieuses.
Il y a des limites, il y a des défis, je préfère parler de défis,
ah bon?
Tout en disant que même les communautés anciennes ont déjà été des communautés nouvelles et les communautés nouvelles peuvent reproduire les défauts de jeunesse qu'ont eu jadis les communautés anciennes.
Décidément, vous êtes un homme d'espérance.
Ben,
et très positif.
Si je vois des défis pour certaines nouvelles communautés, les crises de croissance, entre autres liées à la disparition de la figure fondatrice, c'est toujours un temps, si ce n'a pas été suffisamment préparé, cela peut être un temps difficile pour les communautés. communauté. Deuxièmement, je pense c'est de cultiver ce que j'appellerais une ecclésialité ouverte. Hein? Parce que catholiques, minoritaires, parfois se sentant un peu en crise, on peut avoir tendance à une crispation identitaire et qui se traduit notamment par des comportements rigides, parfois même une certaine intransigeance, qui conduit, tant par rapport à la grande Église catholique que par rapport à la société, à une certaine forme de sectarisation, c'est-à-dire de rupture et de repli sur soi. Certaines communautés peuvent être marquées à certains moments donnés de leur vie par certaines de ces tendances. Donc c'est un point à surveiller et sur cela l'Église, notamment par les évêques, assure justement cette ecclésialité ouverte auprès des communautés. Et peut-être troisième point à surveiller pour ces nouvelles communautés, développer un équilibre entre l'engagement social et la spiritualité. Un accent très fort est mis sur la nouvelle évangélisation, l'expérience spirituelle et l'éducation de la foi. Ce sont trois points importants de la nouvelle évangélisation et les communautés nouvelles entrent de plein pied dans cela. Les communautés plus anciennes ont une expérience très forte au niveau de l'engagement social, surtout ici au Québec. Pour caricaturer, je dirais, les communautés nouvelles ont peut-être le danger de développer un spiritualisme non engagé, les communautés anciennes de développer un engagement sans spiritualité.
Ah, voilà, c'est bien dit. Vous travaillez en lien avec les communautés religieuses nouvelles depuis une quinzaine d'années, on le disait, et pourtant vous êtes membre, on le disait aussi, d'un ordre ancien qui a 800 ans, les Dominicains. Cela pourrait sembler peut-être un peu paradoxal. Alors pourquoi vous intéressez-vous aux communautés nouvelles alors que vous faites partie d'une communauté ancienne?
Je suis entré chez les Dominicains en 1996, l'année où je terminais à l'Université Laval une maîtrise en sociologie sur justement les communautés nouvelles dans l'Église catholique du Québec. Je voyais d'un côté dans ces nouvelles communautés beaucoup de vitalité, de la fraîcheur, un avenir certain. En même temps, puis là c'est sur un plan plus personnel, j'avais besoin d'une communauté où je pouvais vivre les principaux éléments qui se retrouvent dans les communautés nouvelles, à savoir une mission qui est celle de l'annonce de la parole, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, la communauté, l'étude, la prière, mais j'avais besoin d'une communauté qui avait des racines et des racines longues. J'avais besoin d'une communauté intergénérationnelle avec des personnes plus âgées, des coureurs de longs marathons qui pouvaient me dire après 40 ou 50 ans de vie religieuse, Rick, ça vaut le coup de tenir dans la vie religieuse, d'investir ta vie jusqu'à la fin. Et quand on fait profession, quand on s'engage à vœux dans l'ordre, hein, on fait profession, on dit jusqu'à la mort. On choisit pas de mourir, c'est
non,
de vivre.
Non, c'est très engageant.
On s'engage avec la grâce de Dieu à demeurer fidèle à notre engagement jusqu'à la fin. Et j'avais besoin d'une communauté qui avait ses racines. Mais en même temps, je crois que communauté ancienne et communauté nouvelle avons beaucoup à nous apporter, peut-être une certaine sagesse et expérience du côté des communautés plus anciennes, mais également fraîcheur, vitalité, adaptation aux sensibilités nouvelles, aux besoins nouveaux qui se nomment dans la société et dans l'Église. Et cela, ces nouvelles communautés nous l'apprennent.
Frère Rick Van Leer, je tiens à vous remercier de nous avoir livré avec autant d'espérance le fruit de votre réflexion sur les communautés religieuses, sur leur vitalité, mais aussi sur leurs défis. Je vous souhaite donc tout le succès pour la suite de votre précieux travail. Merci.
Merci à vous.
Je remercie bien chaleureusement Rick Van Leer, professeur à l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal. Je remercie Francine Robert qui coordonne cette série d'émissions « Croire d'hier à demain ». Un merci tout particulier à Justine Chevary-Cossette à la technique. Je vous rappelle que cette série d'émissions est réalisée dans le cadre des fêtes du 50e anniversaire de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal pour Radio Ville-Marie. C'est Christine Cossette qui vous salue et qui vous souhaite une très belle semaine. Au revoir!